Une fois n'est pas coutume, nous qui avons l'habitude de traîner nos micros dans les manifestations, de recueillir des témoignages pour un reportage ou d'enregistrer des rencontres dans des librairies, eh bien nous sommes allés cette fois-ci enregistrer la visite d'une exposition. Il s'agit de l'exposition intitulée « Vie d'exil », sous-titrée « Des Algériens en France pendant la guerre d'Algérie » entre 1954 et 1962, et elle est visible jusqu'au 19 mai à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration au Palais de la Porte Dorée. C'est une exposition qu'on vous recommande une fois passés les a priori liés à cet ancien palais colonial. 51 ans après la fin de la guerre d'Algérie, on va donc parler de la guerre d'Algérie, mais d'un point de vue qu'on n'a pas souvent l'occasion d'entendre, puisqu'elle est vue depuis la France par les Algériens vivant en France. Regard d'exilés, regard et vie quotidienne d'une immigration singulière, puisqu'elle porte un combat nationaliste et anticolonial. Puisque cette exposition présente la vie quotidienne de ces Algériens pendant cette période, eh bien c'est l'occasion de donner la parole à ces Algériens exilés en France, puisqu'ont été recueillis spécialement pour cette exposition des témoignages, aussi bien des témoignages de travailleurs algériens que d'artistes, ou des Algériens ayant joué un rôle politique ou au sein de la société civile pendant cette période. Ces témoignages, on peut les découvrir tout au long de l'exposition sous forme de vidéo, et nous, eh bien, on aura l'occasion d'en entendre quelques-uns, quelques extraits, au cours de notre émission. D'autres types de témoignages jalonnent cette exposition, et c'est pour ça que c'est important de pouvoir se déplacer, de les voir, que ce soit donc des photographies, des documents d'archives, des journaux, mais aussi des œuvres d'art, qui sonnent un petit peu comme autant de témoins de la vie culturelle, intellectuelle et militante vécue par les Algériens en France à cette époque. Mais je vous invite à nous suivre puisqu'on est en compagnie d'Edia Yeles Chaouche, qui est chef de projet sur l'exposition. On la remercie vivement, elle a accepté notre micro et notre présence au cours d'une visite de cette exposition.
Alors, cet espace-là, c'est une sorte de matrice, de cocon un petit peu. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on avait effectivement pensé et envisagé cet espace comme une introduction un peu à l'exposition. Et c'est une évocation un petit peu de l'Algérie rêvée, telle qu'on l'imagine. Vous avez des images, des photos de la Casbah d'Alger avec ce le ciel d'Algérie, vous avez des scènes de marché, là ça se passe à Constantine. Vous avez aussi des paysages de l'Algérie, l'Atlas, le sud algérien. Et puis, déjà derrière, vous avez le bateau qui évoque le départ vers la métropole. Parce que, comme vous le savez, cette exposition, c'est une exposition qui traite non pas de la guerre d'Algérie en métropole, mais de l'histoire de l'immigration algérienne pendant la guerre d'Algérie. Alors la distinction est sans doute ténue, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que nous, l'idée, c'était de raconter la vie quotidienne de cette immigration pendant une période assez compliquée. Mais c'est une période aussi intéressante pour plusieurs raisons, parce qu'effectivement, à partir du début des années 50, l'immigration algérienne s'accroît de façon importante en métropole, c'est-à-dire que cette immigration existe déjà avant les années 50. Hein. L'immigration ne date pas de 54. Hein. Dès la fin du 19e, on a déjà une immigration saisonnière de Kabyles qui vient travailler en France. Et puis petit à petit, à partir des années 20, on parle de quelques dizaines de milliers d'Algériens. Et puis vraiment, il y a un basculement à partir du début des années 50. Et avec la guerre en Algérie qui s'intensifie, cette immigration va augmenter de façon très importante. Et donc on passe, fin des années 40, à quelques dizaines de milliers, à plus de 300 000 Algériens en 1955. Vous voyez vraiment, il y a un accroissement très important. Ce qui est intéressant dans cette période aussi, c'est que l'essentiel de cette immigration, c'est une immigration de célibataires. Mais on commence à voir les familles. Alors, il y en a quelques-unes un petit peu avant, mais là, c'est un petit peu plus visible. Et on le voit à l'école, les photos des petits écoliers algériens qui vont rejoindre leurs petits camarades sur les bancs de l'école. Donc, c'est quelque chose qui est important, mais qui reste somme toute modeste, hein, puisqu'on parle de quelques dizaines de milliers de femmes et d'enfants en métropole. Donc, c'est pas non plus, on ne parle pas encore de regroupement familial. Ça se limite à quelques dizaines de milliers, mais c'est un phénomène vraiment qui s'amorce à cette époque-là. Et puis la spécificité, mais étant donné la guerre d'Algérie, la spécificité aussi de cette immigration, c'est assez unique, c'est que c'est toute une immigration qui est associée à un combat politique pour l'indépendance. Et c'est assez unique. Hein. Donc je vous invite à m'accompagner et à entrer dans l'espace de la première section, de cette exposition qui en comprend 5. Donc la première section qui est dédiée à la vie sociale, parce que cette immigration algérienne arrive en France pour travailler. L'idée, c'est effectivement de gagner sa vie et d'aider sa famille restée en Algérie. Et donc, ces immigrés algériens arrivent et vont aller là où il y a du travail. Et quand on voit la carte un petit peu plus loin, c'est qu'il y a un Algérien sur 3 qui est situé, qui est localisé dans l'ancien département de la Seine. Donc c'est quand même pas rien. Mais il y a évidemment d'autres régions. Il y a le Nord, il y a les Bouches-du-Rhône, notamment à Marseille. Enfin, il y a des coins, effectivement, où on a une immigration importante, mais qui est forcément liée au fait qu'il y a effectivement une activité économique importante. Et donc, les Algériens, quand ils arrivent, ils vont travailler dans les usines, ils vont travailler dans les travaux publics, et puis ils vont aussi travailler dans les mines. Et donc là, dans cette première section, mais comme on l'aura fait dans les autres sections, on a souhaité interroger des Algériens, leur donner la parole, qu'ils nous racontent un petit peu leurs souvenirs de cette époque. Donc vous avez ici 3 témoins, M. Séfir, M. Nemich et M. Boukateb, qui nous racontent leurs souvenirs de cette période, leurs souvenirs du monde du travail et du monde des mines, parce qu'eux ont été des mineurs de fond. 2 d'entre eux vivent dans des baraquements, l'hiver il fait froid, où il n'y a pas nécessairement de commodité, où les conditions sont difficiles, et puis effectivement, dans le contexte de la guerre, les choses sont encore le sont davantage. Mais ça concerne tous les Français, c'est pas que les Algériens. À cette époque, c'est vraiment l'habitat, c'est un vrai problème. Mais autant vous dire que pour les Algériens, la chose est d'autant plus vraie. Alors, ce qui est aussi intéressant à dire, et c'est le cas de M. Nemich, c'est que beaucoup d'Algériens vont aller là où ils ont déjà de la famille, des amis. Donc, ils rejoignent un peu les leurs en métropole. Et forcément, ils se retrouvent finalement à vivre un peu entre... C'est un peu l'entre-soi. À cette époque, on va là où il y a déjà de la famille et des amis. Mais c'est beaucoup plus facile, j'ai envie de dire. C'est quelque chose que tout le monde aurait tendance à faire dans l'exil.
Moi, je suis venu ici en 1955. Je rentrais en France. Puis j'ai trouvé mon père. J'ai été avec lui, puis il m'a embauché à l'usine de l'engrais d'Oubi. Et après, j'ai déménagé Oubi. Après de là, j'ai parti à l'armée française. J'ai resté 2 ans dans l'armée française. Pour revenir, j'ai commencé à l'usine. J'ai travaillé 3 mois. Et après, j'ai venu ici à la mine. J'ai travaillé 30 ans.
Quelquefois, on travaille
à plein ventre.
À plein ventre. Quelquefois, il fait plus que 2 mètres. Ça dépend la taille du charbon. Ouais. Ouais, c'est, quand on a été travailler à plein ventre, c'est crevant.
Ouais,
c'est crevant, ça.
J'ai resté ici 2 ans au baraquement, là, à Como.
C'est du Como. Angle.
Mon frère, il était ici avant. Oui, mon frère, il était venu en 52. Et après, il est retourné à l'Algérie. Il a laissé sa chambre. Ben, moi, j'étais venu en 55, j'étais à sa chambre.
Moi, j'ai resté dans les baraques jusqu'à 57. Après, dans le temps-là, j'ai demandé la maison. Et il m'a donné une maison. C'est celle-là.
Baraquement, tu es plein de cafards, c'est obligé le cafard. Tu ne peux rien dire. Parce qu'il y en a, même toi, il n'y en a pas le cafard, tu vas voir. Parce qu'avec les autres voisins. Même, par exemple, tu ramènes un meuble, tu ramènes un cafard, et tu vas voir le cafard. Et le voisin pour nous, en dessous, c'est les rats. Tu vas trouver, tu es plein de baraque avec les os. Tous les os qui t'es jetés dans le. Machin. Les rats, ils ramenaient d'elle en dessous de la baraque et puis ils mangeaient là-dedans. Les rats, parce qu'ils habitaient dans les baraquements.
Donc, toujours pour rester dans la thématique du logement, donc vous avez ici toute une série de photos d'un bidonville. C'est le bidonville de Nanterre, qui n'existe plus aujourd'hui évidemment, et dans lequel près de 10 000 Algériens ont vécu en pleine période de la guerre d'Algérie. Ce qui est intéressant dans ces photos, en fait, c'est d'abord la personne qui les a faites. L'auteur de ces photos, c'est Monique Hervaux, qui est une dame absolument incroyable, qui a décidé de vivre avec les Algériens pendant cette période-là très difficile. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ces photos, contrairement à d'autres photos, peut-être de cette époque qu'on a pu voir dans des journaux qui traitaient de la question algérienne, c'est des photos qui ne sont pas des photos volées. C'est des photos qui avaient été faites à la demande des Algériens. Monique a toujours eu le souci de respecter ces personnes avec lesquelles elle vivait. Par exemple, l'anecdote qu'elle m'a racontée, ça a été cette fontaine. Ici, vous avez l'unique fontaine du bidonville pour 10 000 habitants, l'unique point d'eau. La corvée d'eau, c'était une corvée que toutes les familles devaient malheureusement devoir faire tous les jours au quotidien pour avoir de l'eau. Et pour Monique, c'était une tâche dégradante. C'était en plus une tâche dangereuse parce que cette fontaine était au bord de la route. Et d'ailleurs, il y a des enfants qui sont morts, qui ont été tués. Et puis, c'était un spectacle. Les gens qui étaient en voiture qui s'arrêtaient pour regarder le spectacle. Voilà, c'était comme dans un zoo. Enfin, c'était terrible pour Monique. Elle l'a perçu comme ça, en tout cas. Elle m'a dit que c'était quelque chose de très dégradant pour elle. Et donc, elle n'a jamais souhaité prendre ses amis algériens dans cette condition-là. Donc la fontaine, elle l'a prise, mais seule, vous voyez, il n'y a personne autour. Donc c'est ça aussi, nous, ce qu'on a voulu aussi montrer de ce bidonville. Donc c'est peut-être un autre regard que le regard voyeur, entre guillemets, qu'avaient les gens à cette époque, qui regardaient le bidonville de l'extérieur, qui ne venaient pas. Mais en même temps, l'époque est compliquée, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de méfiance réciproque. Il y a un rejet, oui, mais il y a une méfiance, il y a une crainte de l'autre, on ne connaît pas. Et les Français, à cette époque, ne viennent pas, n'entrent pas dans le bidonville. Et c'est l'étonnement de Monique qui me dit, finalement, les seuls qui osaient venir, c'était le postier, c'était le glacier. D'ailleurs, voilà, les enfants, là, ils sont absolument ravis. Et ces photos-là, eh bien, elles racontent tout ce que les Français n'ont pas eu l'occasion de voir. En fait, c'est la vie quotidienne de ces Algériens qui ne sont pas si différents des Français de métropole, qui ont les mêmes aspirations, accéder à la société de consommation qui se profile. Vous avez ici une petite, il y avait un petit commerce, et là, rue de la Garenne, vous avez toute une série de commerces, le boucher qui est là. Enfin, on est dans la vie quotidienne de ce bidonville, on est dans la vie de ces familles qui doivent bien envoyer leurs enfants le plus propre possible, malgré la boue. Tous les matins, les gens mettaient des sachets plastiques sur leurs chaussures pour rester propres et arriver à peu près à l'école ou au travail à peu près proprement. Les femmes s'occupaient de leur intérieur. On construisait des baraquements qui étaient souvent détruits après, par la suite, par la police, la fameuse brigade Z dont parle Monique. Donc en plus, il y a un jeu avec cette brigade qui casse et eux qui s'amusent, qui reviennent, qui reconstruisent. Donc voilà, alors le contexte est très difficile et très compliqué. Les rues sont boueuses, il n'y a pas de commodité, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité. Enfin, les conditions sont très difficiles, mais j'ai envie de dire, les Algériens, ils sont comme tout le monde. Ils ont les mêmes aspirations, les mêmes rêves, le même souci de dignité. C'est d'ailleurs l'une des affiches qui sert à l'exposition, c'est une photo de Monique. Et c'est un couple, et Monique raconte l'affection qu'avait au sein de ce couple, voilà, les époux l'un pour l'autre. Voilà, c'est un couple qui s'aimait affectueusement. Elle m'a dit, voilà, cette photo-là dit tout, dit le Solex, la société de consommation, le béret de l'ouvrier, c'est un monsieur qui a fait Monte Cassino quand même. Enfin, c'est aussi ça l'histoire de ces Algériens qui ont eu des parcours de vie très différents. Puis une richesse insoupçonnée, enfin, voilà, c'est ça aussi que Monique avait souhaité témoigner. D'ailleurs, vous avez des légendes, des photos qui racontent aussi, voilà, les parcours de ces Algériens qui viennent finalement et qui atterrissent dans ce bidonville absolument sordide, mais dans lequel finalement le quotidien prend le pas sur le reste. Ensuite, je vous invite à... Vous avez aussi une série quand même de photos de foyers. Alors à cette époque, il n'y a pas non plus beaucoup de foyers. Il faut savoir que le premier foyer de la Sonacotral, c'est 1959. Donc il n'y a pas de politique d'habitat à destination de cette immigration. De toute façon, on considère que cette immigration n'est pas vouée rester en France. Donc si vous voulez, on ne réfléchit pas, il n'y a pas de politique pensée autour de cette immigration. C'est des ouvriers qui se débrouillent tout seuls. Mais je vous dis, le problème du logement, de l'habitat, c'est un problème aussi qui concerne toute la France. Ce n'est pas spécifique aux Algériens, j'ai envie de dire. C'est vraiment un gros problème à cette époque. Sinon, il y a aussi les meublés, les cafés-hôtels, dans lesquels les gens ne louent pas des chambres, ils louent des lits. Et d'ailleurs, on me disait, dans certaines chambres où on s'entassait à plusieurs, le lit n'avait jamais le temps de refroidir parce qu'il y avait le système des 3-8 là aussi. C'est comme à l'usine, c'est-à-dire que les gens qui travaillaient la journée libéraient le lit pour les gens qui travaillaient la nuit, qui venaient se reposer la journée. Enfin vraiment, ça n'arrêtait pas. C'est vraiment des conditions de vie assez précaires et très, très compliquées. Donc, après des journées de labeur, de travail en usine ou dans les mines, écoutez, on essayait de se détendre dans un des lieux majeurs de sociabilité pour l'immigration algérienne, le café. Hein, le café qui est un lieu de loisirs. C'est un lieu où on se retrouve pour jouer, pour passer le temps, avoir des nouvelles du pays, rencontrer des camarades et puis se divertir puisqu'on organise des pièces de théâtre. Il y a des artistes qui viennent se produire, il y a des concerts, vous avez une série de photos du photographe Bula où vous voyez une danseuse de cabaret qui vient se produire. Et puis, on vient aussi écouter de la musique. La musique et la chanson qui, à cette époque, c'est une chanson de l'exil. On évoque le pays quitté, la nostalgie des siens laissés de l'autre côté de la Méditerranée. Et toutes les chansons tournent autour de cette thématique, la douleur de l'exil et du départ, le ghorba, comme on dit. Et là, on a choisi une petite série de chansons, une sélection. Vous avez Slimane Azem, grand monsieur de la chanson de l'exil. Vous avez la chanteuse Warda. Et vous avez Ahmed Ouahbi, qui est aussi un autre grand monsieur de la chanson algérienne. Et tous les trois, chacun à sa façon, va évoquer l'Algérie. Ahmed Ouahbi, c'est un hommage à sa ville natale, Oran. Ahmed Ouahbi, dont la maman d'ailleurs est d'origine italienne. On a aussi des parcours étonnants. Warda, la maman est libanaise, le papa est algérien. Et puis Slimane Azem, alors lui qui est kabyle et qui, dans ses chansons, sous couvert effectivement d'évoquer des thèmes généraux, il va, on va dire, se retrouver à parler politique. La chanson qu'on a retenue là, par exemple, Quand le croissant paraît. Il évoque clairement la thématique du croissant qui est un des symboles du drapeau algérien et l'allusion au mouvement nationaliste algérien. Hein. D'ailleurs, nombre de ses chansons va être censurées. Enfin, voilà, ça fait partie de ces artistes qui dans ses chansons soutenir la cause nationaliste. Mais il ne sera pas le seul, Warda aussi. Hein. Elle a tout un répertoire de chansons nationalistes. Et d'ailleurs, Ahmed Ouahbi va aussi faire partie de la troupe, d'une troupe d'artistes qui va se produire pour remonter le moral des troupes. C'est extrêmement bien organisé. Hein. Vous avez là Warda qui chante, justement, c'est elle qui est en train de chanter, et qui dit... Qui dit dans la chanson « Toi qui t'en vas au pays, dis aux miens et à ma famille que je pense à eux et embrasse-les de ma part. Dis-leur que leur absence me manque. » Donc on est vraiment dans ces thématiques de la nostalgie, de la tristesse, de l'exil. Et ces Algériens qui viennent au café écouter cela, et bien mine de rien, ça leur permet de dépasser des périodes difficiles. C'est vraiment les chansons, c'est vraiment un réconfort pour eux. Hein. Alors, ceci dit, comme je vous disais, le café qui est un lieu de sociabilité, de rencontre, c'est aussi un endroit où on ne fait pas que de se divertir, on parle aussi politique. Donc c'est un endroit qui est surveillé par les autorités. Et c'est tellement bien contrôlé qu'on a notamment ce document du ministère de l'Intérieur, hein, où il est question d'artistes qui se produisent, et notamment le fameux Slimane Azem dont je vous parlais à l'instant. Hein, cet artiste qui est effectivement surveillé avec d'autres, hein, j'ai envie de dire, il n'est pas le seul. Mais enfin, effectivement, étant donné le contexte de la guerre d'Algérie, les lieux de rencontre des Algériens sont des lieux extrêmement surveillés. Et le café en fait partie. Hein, c'est vraiment un endroit éminemment politique. Alors.
ظهرت وقور يثبات يثرين يفجج يتنور يفقد في سهرين يضوي في مراد البحور يدور راكز السحارين شحال يسعد المحنة يتغمو توسجنا يخدم ذي سلم نقر يفهم ذا شو ذي المعنى يتفاس الشحنة يحسد يوبا ذا تنظر ثورة يفقد غلمنا يفجج ينرنا سنور يسعد يفكر
في ظهر وهو
يثبات ديثرين يفقد في زيرين يضوي في مراد البحور يذور رفض السحائل اشحال ورد ظهير يغاب سرون يقفل لس الحباب تحزن ولاد الهوى يسعد الشثوى في الصعاب ليه النيم ينقلب الرعود البراق ذي الهوى ارميني قروى لا ثاب ايدي فغار صواب يقوى لمزك يضوى
في ظهر
يثبات دي زرين
يفجج يسنور
يفقد في زيرين يضوي في مراد البحور يزور رفض السحارين من أسطورة والسن ذيكن ونصفان في ظهرة نعتفى ذيس ثورنا سمرة يثران سلقيس يزران فرح النمزن ذا الراويس قبل انت تغفي ذيسان اتسافتي يسدرنا نخدم الله ذي الشانيس
في ظهر الدواكور
يثبات ذي ثرين
يفج جيتنا
يفقد في زيرين يضوي في مراد البحور يذور ركض سحارين يفرر يكفلس الغمام يفقد سي طلام ذنوبا سذي النشرح يضويد القد الاعلام يفكى يغد السلام يشعل الدم المصباح انشل هذي الدس الوقام اكاين السلام مولد نكون هذا صنفراح يثبات دي ثرين
يفجج يسنور
يفقد في زيرين يضوي في مراد البحور يذور ركض سحارين يظهر دوقور يثبات ديثرين يفجج يتنور يفقد في زيرين يضوي في مراد البحور يذور رفض السحارين.
Je suis né le 20 décembre 1948 à Zemmoura en Algérie. Et mon père nous a ramenés en 1951, au mois de septembre. Donc j'avais ma sœur qui était l'aînée, qui avait un an de plus que moi, qui est née en 1947, et ma mère, Zeynep Fatma, qui est née en 1920. Je ne sais pas la raison pourquoi il a fait venir sa famille, mais on m'a dit sur Saint-Chamond, la ville qui est dans la Loire, donc, où on a débarqué, que c'est une caractéristique en France, c'est l'une des villes où il y a eu le plus vite le regroupement familial. Dès les années 50, les ouvriers amenaient leur famille. Et beaucoup des gens de notre village, donc de Zemmoura, qui ont amené leur famille très tôt, et ils ont été propriétaires de leur maison très tôt aussi. La promiscuité, à l'époque, il n'y avait pas de WC, donc le pot de chambre était dans la chambre. Nous, les gamins, donc on allait au pot de chambre à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, sans complexe. Puis on dormait aussi, comme il y avait deux petites chambres, on dormait tête bêche, comme ça, ça prend ça, un lit normal de 1m40. Hein. Non, c'était 1m20 à l'époque. Les lits faisaient 1m20 sur 2 mètres. L'eau est venue après. Au début, on allait chercher l'eau à la fontaine. Il y avait une fontaine dans chaque rue. Donc, on n'avait pas de chauffage. Hein. La nuit, la cuisinière s'éteignait. Ni poêle, ni rien. Ma mère est presque jamais sortie. Elle ne connaissait pas la route. Elle n'allait ni au marché, ni rien. Elle accouchait à la maison. Mon père, du travail, il avait un jardin, il avait son travail. Alors, il faisait les 2-8 le matin, une semaine le matin, une semaine l'après-midi. Le soir, de temps en temps, il allait au café chez son grand-oncle, chez son oncle, qui était mon grand-oncle. Donc. Et il m'amenait avec lui. Et donc là, il jouait au domino. Je voyais que le soir, ils écoutaient beaucoup la radio, Radio Qahira, donc le Caire. Ils écoutaient beaucoup et la radio était sur une étagère. Dans beaucoup de maisons maghrébines, donc algériennes, je connais les Algériens, la radio était sur une étagère au-dessus pour pas que les gamins les touchent. Et moi, à cette époque, j'aimais bien le jazz et je montais sur ma chaise pour pouvoir écouter la radio quand mon père dormait, comme il travaillait dans une fonderie. Il était barbeur, donc c'est un travail difficile. Il dormait tôt, moi je restais réveillé. Je disais c'est pour faire mes devoirs et tout. Je montais sur la chaise et j'écoutais la radio. La génération qui était au-dessus de moi, je vous dis, celle qui avait une différence de 4-5 ans, ils allaient au bal, oui. Ils allaient dans les bals, à la campagne. Bon, des moments, ça se passait bien, mais plus souvent, ils se faisaient chasser, quoi. On nous appelait les bounoules à l'époque, les bicots, donc. Je ne suis jamais sorti en boîte de nuit, donc, ou dans les bals, non. Mais eux, ils me racontaient, donc, comme on était... Quand ils revenaient de bal, ils racontaient leurs trucs... Où ça se passait bien avec les filles, ou alors leurs courses à travers champs et les paysans avec les fourches derrière eux. Nos parents n'achetaient pas de photos non plus. Et les photos étaient chères. Et on m'a même fait remarquer, parce que souvent dans plusieurs. Dans des photos là, vous avez 4-5 frères sur la même photo. Donc c'était les instituteurs qui disaient aux gamins pour que les parents n'achètent qu'une photo. Donc on mettait tous les frères dans la même classe. Mettons celle-ci, il y a 3 ou 4 frères là, de la même famille, là, alors qu'ils ne sont pas dans la même classe. Mais pour que les parents n'achètent qu'une photo. Quand il y avait la récréation à l'école, on n'avait que quelques marches à faire. On prenait un bout de pain, on trempait dans le bouillon, on ressortait avec un gros truc rouge et on descendait dans la cour pour le manger. Et les petits Français regardaient ça, ils disaient « c'est quoi ça ?» Et puis on était tout rouge. On croyait qu'on mangeait quelque chose. La guerre n'est pas... Non, vraiment, on l'a survolée. Ma tranche d'âge l'a survolée. J'ai l'impression qu'ils se disaient, moins les gamins en savent, mieux seuls, parce que je sais qu'il y a des familles qui cachaient des gens du FLN et tout, donc on leur disait, c'est un copain, c'est un cousin, tatati. On ne pouvait pas dire, oui, sinon, un gamin, la police vient et dit, est-ce qu'il y avait quelqu'un hier, un tel, oui, mais c'était de la famille. C'était toujours moi qui lisais le courrier. Donc ça faisait quand même bizarre que votre père qui arrive avec une lettre, qui vous demande qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, il y a comme si une sorte de cassure. Comme si nous, ayant été à l'école, on prenait le pouvoir sur nos parents. Mais je le voyais, mais c'est après coup qu'on réfléchit à ça. On est gamin, on lit la lettre et puis c'est tout. Mais c'est après coup, je disais, il y a eu une cassure quand même dans l'exil. Ce n'est pas quelque chose de simple. Ce n'est pas, c'est pas un long fleuve tranquille de dire, bon, moi, toi, tu n'as pas été à l'école, moi, j'ai été à l'école, mais tout est normal. Non, il faut dire, qu'est-ce qu'il y a là-dedans c'est...
Voilà, vous êtes toujours à l'écoute des Oreilles Loin du Front sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. On a entendu juste avant cet entretien, cet extrait d'entretien, un morceau de Slimane Azem intitulé Idared Wagour, qui veut dire en kabyle quand le croissant de lune apparaît. Et là, on a entendu l'extrait d'un entretien avec Abdelkader Zenaf qui relatait ses souvenirs d'enfant quand il était en France pendant la période de la guerre d'Algérie. Et ça, c'est un témoignage que l'on peut entendre dans l'exposition Vie d'exil, sous-titrée Des Algériens en France pendant la guerre d'Algérie, une exposition visible jusqu'au 19 mai à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, donc c'est au palais Porte Dorée. Et justement, je vous propose de poursuivre la visite avec Edia Yeles Chaouche, qui est chef de projet sur l'exposition, et on va entrer dans la deuxième section de l'exposition.
La deuxième partie de cette exposition est dédiée à la question du rapport à la société française. Alors, on a intitulé ce texte d'introduction « Les invisibles ». C'est un terme qui peut sembler fort et peut-être un peu violent, hein, désigner cette immigration comme une immigration d'invisibles. Et pourtant, force est de constater que c'est une réalité. Alors, une réalité par rapport d'abord à leur statut. C'est les Algériens, on ne les désigne pas en tant qu'Algériens à cette époque-là. On les désigne sous le nom de Français musulmans d'Algérie, FMA. Et c'est un statut qui leur accorde un statut de semi-citoyenneté. Enfin, ça, il faut bien le dire. Ils sont français, mais pas totalement. En Algérie, ils ont notamment un poids politique qui n'est pas le même que celui des Européens d'Algérie, clairement. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs quand ils viennent en France, ce qui illustre bien l'ambiguïté de ce statut, finalement, et la manière dont ça a été pensé, en fait. Et puis, comme je vous le disais, ces Algériens qui se retrouvent un peu à vivre entre eux, à la périphérie des grandes villes, dans les bidonvilles ou dans les hôtels meublés ou dans certains quartiers où ils se concentrent, ils sont invisibles aux yeux de la société française puisqu'ils vivent un petit peu entre eux et puis l'essentiel de leur temps, ils le passent en usine ou dans leur quartier. Le contact avec la société française est assez limité. Et puis, l'invisibilité vient du fait aussi qu'on n'a pas envie de les voir parce qu'à cette époque, la guerre d'Algérie, les Algériens, c'est l'ennemi intime. C'est des Français, mais qui représentent un danger, puisque on est déjà à cette époque, à un moment où surgit la figure du terroriste, dès cette époque. Hein. Auparavant, on avait l'image de l'ouvrier, et puis il y a une deuxième figure qui émerge, c'est le terroriste. Hein. Donc le rapport avec la société française est assez limité, si ce n'est à travers certaines associations caritatives d'entraide ou de solidarité, comme la CIMAD notamment, mais d'autres, le Secours catholique, etc. Mais finalement, le rapport avec la société française, en dehors de ces quelques marques de soutien, finalement, et d'aide, est assez limité. Si ce n'est sur les bancs de l'école, vous avez une photo ici d'un de nos témoins, M. Zenaf, qui a eu la gentillesse de nous confier une de ses photos de classe. M. Zenaf est ici. C'est celui-là, le deuxième rang à partir du haut. Et d'ailleurs, parce que vous remarquerez que si je ne vous avais pas forcément indiqué M. Zenaf, je ne pense pas que vous seriez parvenu à le localiser, puisque à cette époque, il y a d'autres camarades algériens, mais aussi beaucoup d'Italiens. Saint-Chamond, c'est un petit village, enfin, il l'était, maintenant c'est une ville moyenne, mais à cette époque, c'était un petit village où là, les communautés algériennes et italiennes étaient extrêmement importantes. Donc effectivement, dehors des écoles, peut-être dans les usines, certains Algériens qui sont syndiqués, qui mènent déjà les luttes syndicales avec les Français. Mais en dehors de ces quelques cas, le rapport avec la société française est compliqué. Et puis le contexte de la guerre va cristalliser encore une fois les méfiances réciproques. Et donc autant vous dire que la situation est un petit peu compliquée hein, pour les Algériens. Ceci dit, il y a quand même une catégorie qui échappe à ce constat. C'est ce qu'on désigne en termes de passeurs culturels. Les artistes, les intellectuels algériens qui font aussi partie de cette immigration algérienne. Alors évidemment, ce n'est pas l'essentiel, encore que nombre d'artistes et de chanteurs, notamment Slimane Azem, Akli Yahyaten aussi, travaillent dans les usines la journée et puis le soir se produisent dans des cafés, dans des salles de spectacle. Encore qu'il n'y ait pas beaucoup de salles de spectacle à destination de l'immigration algérienne, c'est pour ça que l'essentiel des spectacles se déroule dans les cafés. Il y a quelques scènes artistiques, effectivement, mais c'est essentiellement à destination d'une clientèle française. Et parmi ces scènes réputées, il y a les fameux cabarets orientaux. Et à cette époque, il y en a beaucoup au cœur de Paris, et notamment le fameux cabaret El Jazair, qui est en fait Algérie, en arabe. Et parmi les témoins qu'on a retenus pour cette exposition, on a retenu le cas de Sherazade, qui était danseuse au cabaret El Jazaïre, et qui, elle, va nous raconter un peu ses souvenirs de cette époque, mais à travers son regard d'artiste, de danseuse. Sherazade décrit sa passion pour la danse très tôt. Et puis, elle évoque un peu l'ambiguïté de cette époque. Parce qu'en fait, le soir, elle se produit au cabaret El Jazaïre. Et puis, la journée, elle transporte des armes et de l'argent pour le compte du FLN.
Moi, je suis venue en France très jeune. J'avais peut-être 3 ans, 4 ans. C'est des gens algériens qui m'ont amenée. Dans le Nord, ils avaient un bar-restaurant. La première fois, quand j'étais au cabaret, j'étais étonnée de voir ça. Des danseuses nues et des musiciens et plein de gens, plein. J'étais étonnée. Mais je me dis, c'est pas possible, moi, je pourrais pas arriver. Mais moi, j'aimais la musique orientale, toujours, parce que la maman de mon mari, c'est une égyptienne, elle mettait toujours la musique. Et elle mettait la musique de Farid al-Atrash. Ah, je dis voilà. Et puis je dansais. Ya habaybi ya ghaibin. Je me levais, je dansais chez elle. Elle me dit, toi, tu vas être danseuse. On arrive à 8h30. On descendait à la loge. On se maquille. On s'habille en soirée. On monte dans la salle. Et chacun son numéro de fille. Elle descend, elle s'habille. Et elle monte. C'était comme ça. Et tout doucement, j'ai appris, j'étais la vedette. J'ai travaillé avec Missoum, avec Kamel Hamadi, avec Rachid Mousbahi. Il y avait beaucoup de danseuses. On était 25 danseuses. On dansait toute la nuit, jusqu'à 6 heures du matin. On a passé des années dures, très dures, très 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 dures. On n'avait pas le droit de parler avec, boire de champagne avec les Français. On n'avait pas le droit de s'asseoir avec les gens. Parce que le FLN, il nous a interdit. Je me rappelle, ils nous ont fauté des amendes, 7 000, 8 000 Français. C'est beaucoup pour nous. Mais il fallait le faire. Puis il fallait payer. Tous les mois, il faut payer. Moi, comme je m'appelais Madame Ravisseau, je payais plus cher que les autres. Mais ça fait rien, c'est mon payé. Puis j'ai ramassé l'argent pour le FLN. Aussi. Je voyageais. J'amenais au chef à Bruxelles, à l'Allemagne, des fois à la frontière. Parce que je m'appelais Madame Ravisseau, la police, elle ne me fouillait pas. Avec le passeport Ravisseau, c'est français, alors ils ne fouillaient pas. C'était très dur pour les Algériens. Très, très, très dur. Problème de FLN, problème de la France, problème de la misère d'hôtel. Ils n'ont pas d'argent pour payer l'hôtel. Il y avait beaucoup de choses pendant la guerre d'Algérie. Je n'ai pas un beau souvenir.
On part du cliché absolu du cabaret, de la danseuse de cabaret, qui est un milieu de la culture algérienne, évidemment. Mais en même temps, les Français restent très friands de cette culture, entre guillemets, orientale, qui est une espèce de un peu fourre-tout. Mais voilà, il se trouve que le cabaret est un des lieux où s'exprime quand même un petit peu la culture algérienne, puisqu'il y a des artistes algériens qui viennent se produire à côté de ces spectacles de danse. Et donc, Sherazade, effectivement, est, entre guillemets, sollicitée par le FLN, parce qu'elle est mariée à un Français et porte un nom donc français. C'est une femme qui conduit, donc forcément, elle n'est pas très embêtée à la frontière. Donc, quand elle traverse les frontières pour récupérer de l'argent ou des armes, elle n'est pas vraiment questionnée. Et donc, elle a une facilité qui fait qu'effectivement, elle est sollicitée par le FLN. Et donc, elle se retrouve comme nationaliste, ou en tout cas activiste. Vous avez donc Sherazade et puis vous avez d'autres personnalités. Warda, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une grande dame de la chanson algérienne qui est morte d'ailleurs l'année dernière. Warda, qu'on a appelée Warda Al-Jazeria, ça veut dire Warda l'Algérienne, et c'est Nasser qui lui a donné ce nom-là. Et c'est une jeune fille au départ qui démarre sa carrière à 14 ans dans le cabaret dont était propriétaire son père, le Tam Tam. Et donc, tout au long de la guerre d'Algérie, elle va avoir tout un répertoire de chansons nationalistes. Vous avez aussi Mahyedine Bachtarzi, qui est un grand, grand monsieur du théâtre algérien, qui débute sa carrière comme chanteur d'opéra, qui va être directeur du théâtre national algérien, et qui va être le premier à créer un répertoire théâtral en dialecte maghrébin, ce qui est tout nouveau, parce qu'au départ, le théâtre national produit des pièces de théâtre en arabe. Littéraire. Et c'est intéressant, pourquoi ? Parce que grâce à cette langue de la rue, il va pouvoir évoquer les mots de la société algérienne, et notamment la question du colonialisme. Et d'ailleurs, nombre des pièces vont être plus ou moins censurées, parce que forcément, ça dérange hein, de produire ce type de pièces en Algérie. Et donc, cet artiste, enfin ce directeur de troupe, va être amené à se produire, notamment en métropole, et ça va concerner évidemment l'immigration algérienne qui va être friand, évidemment, des spectacles hein, de Bachtarzi. Vous avez à côté aussi un autre monsieur, un grand monsieur de la chanson algérienne, qui est toujours artiste d'ailleurs, Kamel Hamadi. Kamel Hamadi, c'est intéressant parce qu'à cette époque, il ne se produit pas. Mais c'est un monsieur qui va, lui, évoquer ses souvenirs de la radio. Et on ne soupçonne pas la richesse de la radio à cette époque. Il y a toute une programmation à destination de l'immigration algérienne en Arabie, en Kabyle. Hein. Et Kamel Hamadi se retrouve finalement à venir à Paris pour se produire. Et puis, de fil en aiguille, se retrouve à travailler à la radio. Et donc, on lui commande des opérettes. Donc, pendant des années, Kamel Hamadi va écrire et produire des opérettes. C'est quelque chose dont étaient très friands les Algériens qui écoutaient beaucoup la radio. C'était un peu leur compagne pour passer le temps, les quelques heures de loisirs qu'ils avaient. Toujours sur cette idée des passeurs culturels, donc vous avez aussi des peintres algériens qui viennent en France se former. Et on a sélectionné trois artistes. Il y en avait beaucoup déjà à cette époque, mais on a retenu les trois plus grands artistes algériens. Et on est très fiers de pouvoir les présenter. Donc vous avez Issiakhem, Khadda et Benantor. Et pourquoi ces trois artistes ? Parce que ces trois artistes vont questionner de façon différente la question de l'engagement et de la création artistique. Vous avez derrière vous le tableau de Benantor, hein, qui est un artiste algérien de renom. Et Benantor, c'est un artiste qui a toujours considéré que l'art ne pouvait pas être un espace de résistance et de lutte. À la rigueur, si on a envie de résister, il faut prendre les armes, et c'est ce qu'il fera d'ailleurs. Hein. Ceci dit, comme les autres artistes, l'Algérie est à cette époque obsessionnelle, elle est partout. Et vous aviez notamment le titre de cette œuvre qui s'appelle « Selon Charef ». Charef est son frère, d'un frère qui est mort dans le maquis algérien pendant la guerre d'Algérie. Vous avez ensuite derrière vous donc Khadda et Issiakhem, deux autres grands artistes algériens. Et Khadda, effectivement, lui aussi, hein, l'Algérie est une obsession. L'art est un espace évidemment de résistance et de lutte. Vous avez une œuvre magistrale qui est propriété des Beaux-Arts d'Alger, qui s'appelle « La Casbah ne s'assiège pas ». Et c'est quelqu'un qui a toujours considéré, quand bien même ce n'est pas de la peinture figurative, que l'évocation de l'Algérie, le thème de l'Algérie, était important, était un élément d'inspiration. Et là, vous avez notamment une œuvre qui s'appelle « Méridien zéro » et qui est une référence à sa ville natale, Mostaganem. Et puis, vous avez, entre guillemets, un cas un peu extrême à travers l'œuvre d'Issiakhem, Mohamed Issiakhem, qui est un artiste qui, dans sa création, il y a une figure qui revient de façon résurgente, c'est la figure de la veuve. Hein, la veuve, c'est l'Algérie qui pleure ses enfants. Vous avez donc cette veuve entourée de ses enfants. Et puis, un élément peut-être que vous avez sans doute remarqué, c'est qu'au centre du tableau, vous avez les broderies de cette femme kabyle. Et ces broderies qui reprennent les couleurs du drapeau algérien. Donc Issiakhem fait partie de ces artistes qui ont exprimé leur soutien à la cause nationaliste dans leurs œuvres. Hein. Vous avez aussi à côté des ouvrages d'écrivains algériens. On en a retenu deux, mais il y en avait effectivement bien d'autres à cette époque. Vous avez Kateb Yassine et Mohamed Dib. Alors Kateb Yassine, c'est cette, à cette époque, cette jeune génération d'écrivains qui vont être à l'origine de ce qu'on appelle le nouveau roman algérien. Nejma, c'est une histoire d'amour passionnelle. Et Nejma, c'est la cousine dont le héros est follement épris. Nejma, dont on ne connaît pas les origines et on suppose des origines juives. Donc en fait, il y a aussi tout un ensemble de questionnements autour de l'identité algérienne aussi. Hein. C'est quelque chose de, qui revient dans, dans l'œuvre de Kateb Yassine. Et puis vous avez à côté la trilogie tlemcénienne de Mohamed Dib. Mohamed Dib qui est donc de Tlemcen et qui va, à travers ses trois romans, évoquer sa ville natale et évoquer une Algérie et des Algériens exempts. Et ça, c'est juste avant la période de la guerre d'Algérie. Hein. C'est vraiment, la trilogie se déroule avant la Deuxième Guerre mondiale. Et notamment, c'est le cas de La Grande Maison. La Grande Maison qui raconte la vie d'une famille et d'un petit garçon qui s'appelle Omar. Et le héros, effectivement, à la lecture de ce roman, c'est pas Omar, c'est la faim. Puisque c'est la faim qui accompagne et qui tenaille les entrailles de ce petit garçon qu'il arrive finalement à dompter, qui devient son ami à la fin du roman. C'est quelque chose d'assez étonnant. Et puis vous avez un autre titre, l'incendie. Et rien que le titre, hein, on comprend de quoi il est question. L'incendie, c'est l'histoire aussi d'une grève d'ouvriers agricoles. Et donc, c'est une évocation aussi de la condition coloniale des Algériens à cette époque en Algérie. Donc, effectivement, une littérature riche, vraiment très, très importante, qui est accueillie en France de façon incroyable. Hein. Vraiment, il y a un intérêt pour cette littérature. Vous avez ensuite derrière vous Jean Amrouche, aussi une autre personnalité, encore que c'est pas un immigré comme on l'entend, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un parcours assez atypique. C'est quelqu'un qui quitte l'Algérie très tôt, parents qui se sont christianisés, il habite en Tunisie pendant nombre d'années. En fait, il quitte l'Algérie très tôt, hein. Il est relativement jeune quand il la quitte. Il s'installe en France. Par la suite, c'est un amoureux de la langue française, c'est un poète. Et pendant la guerre d'Algérie, enfin dans les années 50, il anime une émission radio. L'émission se déroule, c'est un entretien en fait. C'est des entretiens qu'il réalise avec les plus grands intellectuels à cette époque. C'est lui qui lance ce concept entre guillemets. Et il reçoit les plus grands intellectuels de cette époque. C'est vraiment étonnant quand on revoit un peu l'inventaire de ses émissions. Il a reçu les plus grands. Et parmi ceux-là, on a choisi un extrait d'un entretien avec Louis Massignon, qui est un islamologue de renom. Et au cours de cette émission, il est question d'une des figures de l'islam mystique, c'est la personne de Mansour al-Hallaj. Et donc, il nous a semblé intéressant de choisir un extrait que les gens puissent entendre aussi la voix de Jean Amrouche et la maîtrise de la langue aussi. C'est vraiment étonnant. Et donc, voilà, ça fait partie des personnes qu'on a souhaité aussi mettre en lumière. Et puis, vous avez aussi Assia Djebbar, évidemment, quand même une femme dans cette série de portraits. Assia Djebbar qui est membre de l'Académie française, hein, et qui est une grande dame de la littérature algérienne aussi, et qui, à cette époque, est encore toute jeune. Et on la voit là, notamment, dédicacer un ouvrage, un roman qui s'appelle « La soif ». Voilà. Alors, cette dernière sous-section de la deuxième section qui est dédiée au rapport à la société française, c'est un espace qui traite de la question de l'opinion publique concernant la guerre d'Algérie. Parce que cette immigration algérienne, finalement, elle vit en métropole et elle vit en contact avec la société française qui se retrouve effectivement confrontée à cette guerre d'Algérie qui effectivement s'enlise hein, au fur et à mesure que les mois passent et les années passent. La société française va se retrouver d'autant plus divisée à partir du moment où il va être question d'envoyer les appelés du contingent en Algérie, qui sont les mieux placés finalement pour illustrer les débats âpres qui animent cette société, ce sont les artistes. Donc on a fait effectivement dans cet espace le choix d'une série d'œuvres artistiques qui évoquent justement les différents débats et questions évoquées pendant cette période-là. Je vous parlais des appelés du contingent. Vous avez de l'autre côté une œuvre de Lorjou, qui est un artiste qui fait ici une satire de la figure militaire. Vous avez ici un bouc, et sur ce bouc, vous avez un jeune homme qui a déjà sur son visage les perspectives qui l'attendent de l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire la mort. Vous avez un visage, un crâne, voilà, qui déjà sous-entend déjà le destin funeste qui l'attend. Hein. Vous avez aussi la série de dessins de Roberto Matta, qui est un artiste aussi, qui va être marqué suite à la lecture du livre d'Henri Alleg, hein, sur les tortures qu'il a subies en Algérie, et qui va effectivement peindre une œuvre magistrale qui est assez importante, qui a été exposée pendant quelques temps et qui est partie actuellement, qui est présentée à Marseille. Et on l'a remplacée par une série de dessins qui traite aussi de cette question-là. Et Matta, dans ses œuvres, c'est la thématique du cube qui revient, c'est la plongée dans ce cube, c'est la plongée dans l'indicible, dans l'horreur, dans la torture. Hein. Et puis, vous avez aussi, à côté, vous avez une œuvre étonnante d'un artiste qui s'appelle Hérault. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, si vous connaissez cet artiste. Hérault, qui a été choqué à cette époque par le racisme latent. Et il a peint cette œuvre intitulée Les racistes. C'est un jeu de mots. Il part effectivement de ses rats en haut du tableau et sur la réflexion des lois mendéliennes de la génétique. Et donc toute cette réflexion autour de l'idée des races. Et puis ce jeu de mots autour du racisme, et donc c'est quelque chose qui l'avait effectivement beaucoup marqué à cette époque. Vous avez aussi à côté un autre artiste engagé, c'est Jean-Pierre Geoffroy, qui va lui aussi à maintes reprises dans son travail évoquer la guerre d'Algérie, l'opinion publique qui se déchire. Vous avez ici notamment cette encre noire, et puis vous avez le titre « L'humanité », un journal qui a notamment beaucoup évoqué dans ses feuilles, voilà, l'actualité brûlante à cette époque. Et puis alors, donc je vous disais effectivement, les artistes vont évoquer dans leur création la question de la torture, mais certains artistes ne vont pas se contenter de peindre, ils vont soutenir un mouvement indépendantiste. Et vous avez le cas de l'artiste qui s'appelle Jean-Jacques Lebel. Et cette valise raconte son engagement, puisque c'est un artiste qui va héberger des nationalistes algériens. Et donc un soir, il se retrouve à héberger un nationaliste qui, effectivement, le lendemain, oublie cette valise. C'est une valise qui est remplie de documents papier relatif à la vie du MNA, qui est le parti rival du FLN. Et ces documents sont passionnants. Vous avez un rapport financier, parce qu'effectivement, l'argent étant le nerf de la guerre, les Algériens étaient sollicités pour soutenir l'effort de guerre, comme on dit. Et donc, dans toutes les régions, il y a des collectes de fonds. Donc, vous avez ici un rapport financier. Vous avez aussi des rapports sur le moral des troupes, hein, parce qu'effectivement, la guerre va aussi venir s'implanter en métropole. Et donc, il y a une espèce de guerre militaire, mais une guerre aussi psychologique entre le FLN et le MNA. Effectivement, le moral des troupes n'est pas nécessairement au beau fixe. Et vous avez donc des rapports sur l'état des troupes, leur morale, leur organisation. Donc, c'est des rapports sur les différentes zones dans lesquelles est implanté le MNA. Alors, Jean-Jacques Lebel, c'est un artiste aussi qui est à l'origine de ce qu'on appelle le happening. C'est un artiste, je vous disais, donc très, très engagé. Cette œuvre, qui est une œuvre étonnante, est intitulée Front unique. Front unique, c'est le titre d'un journal qu'il va créer et dans lequel il va notamment dénoncer la colonisation, la guerre d'Algérie. Et puis, c'est quelqu'un qui va aussi créer l'idée d'un anti-procès. Alors, l'anti-procès, c'est quoi ? C'est une sorte de manifestation dans laquelle on organise des expositions, des projections de films, des débats. Il va en organiser plusieurs. Et au cours du troisième anti-procès, qui se passe à Milan, on va exposer un tableau collectif antifasciste. C'est un collectif d'artistes qui vont peindre un tableau dans lequel on dénonce les excès, enfin les ravages plutôt de la guerre, et notamment la dénonciation des tortures qu'a subi Jamila Bouayred, qui avait été torturée. Et donc, il y a une partie du tableau qui est consacrée d'ailleurs spécifiquement à cette nationaliste algérienne. Et Jean-Jacques Lebel participe à ce tableau. Alors, vous avez ici aussi tout un ensemble de documents, donc toujours liés à cette époque, relatifs en particulier au traitement de l'affaire de Jamila Boupacha, qui a été condamnée pour avoir déposé une bombe dans un café qui n'a pas explosé. Jamila Boupacha va être défendue par Gisèle Halimi. Et il va y avoir un collectif, un comité de soutien qui va être créé. Et Picasso va faire un portrait de cette femme qui va servir de couverture à l'ouvrage qui va effectivement sorte de plaidoyer pour la défense de Djamila Boupacha qui avait été condamnée, effectivement. Ah, vous avez aussi le tableau de Cremonini. Alors, pour revenir sur cette série d'artistes qui vont peindre la guerre d'Algérie, Cremonini est tout à fait à part. Parce que Cremonini, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ses œuvres, cette œuvre est tout à fait atypique. Cet artiste, c'est un artiste de l'intime, des scènes de mer, d'aquarelles, des couleurs douces. Alors, certains critiques d'art le désignaient comme un artiste voyeur, entre guillemets, parce que sa perspective, à lui, c'était toujours une vue de chambre, une vue de salon, mais toujours à travers une porte entrouverte, une fenêtre ouverte, mais toujours des tons très, très doux, des couleurs pastel, des choses très, vraiment très douces. Et puis là, cette œuvre qui, effectivement, en pleine guerre d'Algérie, sort totalement du lot et vraiment est originale et vraiment particulière de ce point de vue-là. C'est totalement insoutenable, on a presque du mal à la regarder, c'est vraiment un choc visuel et c'est aussi ce qu'a voulu exprimer Cremonini, une espèce d'indignation, une révolte face à ces tortures commises effectivement en Algérie mais aussi en France. Hein. Voilà.
روح لبلاد سلم لي عليهم قتلني البعاد متوحش ليهم
يا مروح لبلاد سلم لي عليهم قتلني البعاد متوحش ليهم صبرلي يما وهنيها كلمة صبرلي يما وهنيها كلمة يفرج الله ونرجع عليهم
يا مروح البلاد سلم عليهم يا تنسى البلاد من وحش
ليهم يا مروح البلاد سلم عليهم قتلني البعاد متوحش ليهم يا مروح سلم قل للحبايب من البعد متألم وجسمي ذايب يا مروح سلم قل للحبايب من البعد متألم وجسمي ذايب غريب مسكين لما لي لحنين غريب مسكين لما لي لحنين يا ريت ما تغربت وبعدت عليهم
يا مروح البلاد سلم لي عليهم
قتلني
خلي نساه صبرهم يا خي والصبر دواهم قولا يا مدام حي محل نساهم قولوا الحبيب يهني الغريب قولوا الحبيب يهني الغريب يرسل له مكتوب يحكي له عليهم
يا مروح البلاد سلمني عليهم يا دم البلاد من وحش
فيهم يا مروح البلاد سلمني يجومش الساعة ونروح البلاد يجومش الساعة ونروح البلاد يقدر الله ونفرح بيهم
نروح البلاد سلم عليهم يا سم البلاد متوحش ليهم
يا مروح البلاد سلم عليهم قتل البعاد نتوحش ليهم.
Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, c'est l'émission Les Oreilles Loin du Front. On vient d'entendre là tout de suite la jeune Warda, elle était jeune à l'époque effectivement, avant de s'appeler Warda Al-Jazairia. Et la chanson c'était Yamrawah Al-Bled, donc elle s'adresse à, à celui qui part au pays pour qu'il il transmette à ses proches ses pensées. Voilà. Et donc on poursuit notre visite de l'exposition Vie d'exil des Algériens en France pendant la guerre d'Algérie 1964-1962, c'est-à-dire l'exposition qui est encore visible jusqu'au 19 mai à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Et on est en compagnie d'Edia Yeles-Chaouch, qui est chef de projet sur l'exposition. Et on va donc maintenant aborder la dernière partie de cette exposition.
Alors, comme je vous le disais, effectivement, la vie quotidienne de cette immigration algérienne en France est compliquée. On regarde ce qu'on a vu un petit peu, une guerre qui s'enlise, un quotidien difficile, des conditions de vie compliquées, puis un quotidien aussi compliqué parce que ces Algériens sont confrontés quotidiennement aux autorités policières, aux forces de police qui contrôlent, recensent les Algériens. Vous avez d'ailleurs tout un ensemble de documents ici qui viennent de la préfecture de police, qui recense les hôtels et garnis à clientèle nord-africaine. Donc il y a un contrôle, il y a tout un ensemble de structures qui sont mises en place pour recenser et encore une fois contrôler cette immigration algérienne. Que je vous dis, cette époque, l'immigration algérienne est perçue avec suspicion. On est en pleine période de guerre et cette immigration est associée au combat de l'indépendance. Et donc les autorités trouvent le besoin de mettre en place tout un dispositif pour contrôler encore une fois cette immigration. Vous avez ici deux journaux qui aussi reviennent aussi sur l'ambiance à cette époque. Vous avez tout un ensemble de vocabulaire, de mots qui sont très violents ou stigmatisants, où on est dans le cliché de stéréotype. On parle ici de Médina, on parle ici de tueur nord-africain. Je vous dis, la figure du terroriste, elle émerge à cette époque avec force. Alors, on arrive ici effectivement dans la section dédiée à la guerre d'Algérie. Parce que comme je vous le disais, ce qu'on ne sait pas ou peu, c'est que la guerre est venue aussi s'implanter en métropole et qu'il y a un véritable volet métropolitain de la guerre d'Algérie. Cette guerre concerne effectivement aussi bien les forces de police vis-à-vis de l'immigration algérienne, qui, je vous dis, associée à ce combat d'indépendance, que les deux mouvements nationalistes rivaux, le FLN et le MNA, qui vont effectivement s'affronter de façon très violente, et on estime à 4000 victimes, 4000 Algériens victimes de ces affrontements sanglants. Donc cette guerre fratricide qui oppose les deux mouvements nationalistes va éclater à partir du moment où le FLN va vouloir s'implanter en métropole. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'auparavant, Sémé Saliadj, qui est la figure du nationalisme algérien, dès 1926, c'est le premier à avoir créé le premier mouvement nationaliste algérien. Et d'ailleurs, ce mouvement nationaliste algérien se crée en métropole. Et ce qu'il faut dire aussi et rappeler, c'est que cette immigration algérienne, contrairement à ce qu'on peut croire ou penser, c'est une immigration extrêmement politisée et très tôt. Très, très tôt. Donc, l'immigration algérienne est acquise à la cause de Messali. Et quand le FLN tente de débarquer en métropole, sa légitimité est remise en cause. Et donc, il va y avoir tout un enjeu politique, financier, qui va être à l'origine de ces affrontements sanglants entre FLN et MNA. Et le bilan est assez lourd. Et vous avez une guerre qui oppose les deux mouvements nationalistes, mais c'est une guerre aussi psychologique. Regardez cet ouvrage qu'on présente, dont le titre est « De la contre-révolution à la collaboration ou la trahison des messalistes ». Les messalistes sont ceux qui soutiennent Messaliadj, hein, comme je vous le disais. Donc le FLN et le MNA, d'ailleurs, vont dédier tout un ensemble de documents visant à déstabiliser l'opposition, enfin le mouvement rival. Mais reste que, au bout de quelques temps, finalement, le FLN arrive et parvient à s'imposer. Il va rester quelques îlots de fidèles à Messali, notamment dans le Nord, mais finalement, le FLN va parvenir à s'imposer. Parce que parmi les enjeux, c'était, je vous disais, l'enjeu financier, évidemment, mais la légitimité aussi de ce mouvement nationaliste qui était destiné à négocier avec les autorités françaises. Donc il y a un enjeu de pouvoir et un enjeu politique essentiel. Ce conflit fratricide va se cristalliser autour des cafés. Et donc, il va y avoir ce qu'on appelle une guerre des cafés. Parce que, comme je vous le disais, le café était un espace, c'est un lieu de loisirs. Mais c'est aussi un espace politique. C'est un enjeu politique. Et donc, effectivement, qui contrôlait le café dans le quartier, contrôlait le quartier, hein, si vous voulez. Il va y avoir une lutte autour de ces coins stratégiques. Mais reste qu'à cette époque, il faut quand même constater que ces règlements de compte fratricides vont se retrouver dans les journaux, dans la rubrique des faits divers, et vont souvent se résumer à des conflits entre nord-africains. Donc la dimension politique est étonnamment absente à cette époque, quand bien même il est question de la guerre d'Algérie, mais sur cet aspect-là, sur cette guerre des cafés, sans doute peut-être peu connue, finalement, cette guerre-là atterrit dans la rubrique des faits divers des journaux. Concernant l'organisation du FLN, vous avez un entretien de Saad Apsi qui raconte effectivement à Gennevilliers qu'est-ce que c'est qu'être responsable du FLN. Et M. Apsi va expliquer aussi ce qu'on connaît assez peu, ce qu'on sait assez peu, l'immigration algérienne, finalement en s'associant à cette lutte pour l'indépendance de l'Algérie, va avoir le sentiment peut-être de retrouver une sorte de dignité perdue du fait même de cette histoire, de ce colonialisme de plus de 100 ans, de ce refus de citoyenneté pleine et entière, puisque effectivement avec un statut de semi-citoyen difficile dans ces conditions de se sentir peut-être digne et respecté, le fait de s'associer à cette lutte d'indépendance, c'est pour eux finalement un engagement essentiel. Mais ce qu'on ne sait pas ou peu, c'est que les deux mouvements nationalistes vont tout de même vouloir contrôler cette immigration algérienne. Et M. Apsi le raconte notamment dans son entretien.
Je suis originaire de Oued Souf, exactement dans un petit village qui s'appelle Kounine. Il paraît que je suis né en 1926, mais après, en 1958, ils ont changé, ils ont fait 1928. Après les événements d'août 1955, on m'a arrêté. Je suis parti, je suis resté 18 mois entre Djorf et Petroua, libéré le 28 décembre 1956 avec interdiction de toute l'Algérie sauf ma commune natale. J'arrive à ma commune natale, monsieur Bataillon, administrateur de l'époque, il m'interdit aussi ma commune. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit, débrouillez-vous, allez-y en Tunisie, allez-y, prenez le maquis, vous faites ce que vous voulez. Je me suis fait toujours en quoi au FLN, le FLN m'a envoyé à Gennevilliers, à l'église Saint-Jean, qui était dirigée par des prêtres ouvriers. Voilà comment je suis venu en France. Quand je suis arrivé à Gennevilliers, à l'époque, le travail ne manque pas. Hein. Je me suis embauché chez Valentine. On m'a donné un atelier d'embattage avec quatre garçons marocains et algériens, deux Algériens et deux Marocains. J'étais contrôlé la première fois par le FLN. En sortant de l'usine, il y a quelqu'un qui m'a suivi. Et avant de rentrer à l'église, il me dit « Pardon, je voudrais vous poser une question. » Je lui dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Il m'a dit « Vous êtes de quel côté FLN ou MNA ?» Je lui dis « Moi, je suis du côté FLN. » Même si vous êtes du côté de MNA, comme ça. Et je me suis rendu compte que j'ai fait une bêtise, mais enfin, je l'ai fait. Et à ce moment-là, ils m'ont désigné comme responsable de groupe en face de l'église. Quelques mois après, on m'a donné la Qasma. Le groupe, c'est 21 personnes. La Qasma, c'est 341, c'est plus grand. Et puis, mois de mai 1958, au moment des événements, l'arrivée de De Gaulle, on m'a désigné comme permanent régional à Argenteuil. J'ai dirigé la région d'Argenteuil pendant 11 mois. J'ai dirigé la région de Saint-Denis 2 mois. Et après, on m'a donné la zone d'Aubervilliers jusqu'à Meaux. J'ai dirigé cette zone, je crois, 4 ou 5 mois. Et je suis tombé dans une rafle. On m'a amené à Vincennes 2 mois. Je suis sorti de Vincennes. J'ai travaillé 2 mois à la SKF. C'est une fabrication de roulement de billes. C'est là où il y a la Cité Rouge actuellement, à côté du métro. Et le FLN m'a envoyé à Lyon. J'ai dirigé la Superzone de Lyon. 11 mois. 1960, je suis arrivé à Lyon, je crois que c'est mois de mai. Hein. Et je me rappelle très bien, on a pris le train avec mon responsable de l'époque, que Dieu ait son âme, Bishnouf Thamra, à l'époque on l'appelle Kamal, c'est un homme de grande valeur. Et il me disait, si on tient le coup deux mois, ça sera formidable. Eh bien, j'ai tenu 11 mois. Il y a deux phénomènes que c'est difficile à expliquer, parce qu'il y a la cotisation symbolique. Les malades ne payent pas une cotisation normale, parce que la cotisation normale est de 3005, alors que la cotisation symbolique, il peut donner ce qu'il veut. Et ça varie entre 300 jusqu'à 500. 300 francs. D'ailleurs, les commerçants, ils sont à part. Hein. Par exemple, dans chaque secteur, il y a un homme qui s'occupe de commerçants. Mais la grande majorité de cotisants, c'est des ouvriers. Vous croyez ou vous ne croyez pas, c'est le souci de la prière, c'est autre chose, c'est individuel. Le FLN n'a jamais demandé aux gens de faire la prière. C'est vrai que le FLN, par exemple, moi quand je suis devenu responsable du groupe, et la première fois que je rentrais dans un tabac à la place Voltaire, qui n'est plus le tabac, mais à l'angle de Gevilly, là, hein, j'ai vu une scène terrible. J'ai vu un homme qui pointe un autre homme et il prend sa cravate comme ça et puis le couteau dans l'autre main et puis il lui dit à partir d'aujourd'hui si tu fréquentes cette femme-là et l'autre est en train de hurler le pauvre. C'est ma femme, je vous montre mon livre de famille, etc. Ce qui nous a amené très rapidement d'interdire l'alcool, d'interdire le jeu de hasard, d'interdire les femmes au comptoir et ça a été une bataille vraiment à la fois dure mais vraiment magnifique.
Donc il va y avoir vraiment un contrôle de la vie quotidienne de cette immigration algérienne. Et puis, il y a aussi cet impôt, hein, comme on a dit, un impôt révolutionnaire, que les Algériens vont devoir verser tous les mois. Et on considère que c'est à peu près 10% du revenu mensuel qui sert effectivement à financer la guerre. Et on ne le sait pas. Et ça, on ne le sait pas. C'est l'immigration algérienne qui va financer la guerre d'Algérie. Je vous dis, le quotidien finalement de cette immigration algérienne qui est en période de guerre, tiraillée entre les conflits, qui se retrouve finalement au cœur de ces conflits entre mouvements nationalistes, les forces de police qui quotidiennement les surveillent, les contrôlent, et puis effectivement une société française qui les observe avec méfiance, se retrouve avec une vie assez difficile, assez dure. Hein. Moi, les entretiens qu'on a eu l'occasion d'avoir avec ces Algériens ont été souvent compliqués parce que c'est revenir sur une période qui a été très traumatique pour eux. Et ce qui explique d'ailleurs que pendant très longtemps, ces immigrés n'ont pas souhaité raconter cette époque-là. Donc c'est une histoire qui est peu connue. Hein. L'histoire de l'immigration algérienne pendant la guerre d'Algérie, c'est quelque chose qui a été peu raconté. Les historiens ont fait leur travail, leur part du travail, mais la mémoire concernant cette époque-là, elle émerge depuis peu. C'est quelque chose de relativement récent. Et c'est d'ailleurs lié à ce qui est derrière vous, à l'espace qui est dédié au 17 octobre 1961. Comme vous le savez, le 17 octobre, c'est être l'événement politique majeur de l'histoire de l'immigration algérienne en France. Et cette immigration, on va souhaiter se rendre visible aussi bien auprès des Algériens de l'autre côté de la Méditerranée, hein, donc dire qu'ils s'associent, qu'ils sont solidaires de leur lutte, et puis se rendre visible aussi auprès des Français en métropole, et puis s'élever contre cette mesure absolument discriminatoire de ce couvre-feu qui empêche les Algériens de sortir le soir. Alors, c'est problématique pour les Algériens parce que beaucoup travaillent de nuit. Donc effectivement, ça veut dire les empêcher de gagner leur croûte, et quelque chose qui est difficilement tenable. Alors vous savez les conditions dans lesquelles va se dérouler cette manifestation qui va être réprimée dans le sang, et les suites absolument terribles pour les Algériens qui vont être embarqués et parqués dans des centres d'identification. Les femmes, certaines femmes algériennes vont venir manifester devant les prisons aussi pour soutenir ces Algériens emprisonnés. La presse a fait écho aussi de cette manifestation et des suites dramatiques. Mais effectivement, l'opinion publique ne va pas être marquée par cette manifestation, et pour cause, le bilan officiel reste, somme toute, est très loin de la vérité. Hein. Et puis, il va y avoir une autre manifestation qui va davantage marquer l'opinion publique, c'est Charonne. Et d'ailleurs, dans la mémoire collective, Charonne va phagocyter la mémoire du 17 octobre. Et ce n'est qu'au début des années 2000, quand les archives de la préfecture de police, notamment, vont être accessibles aux chercheurs et que les chercheurs vont pouvoir revoir un petit peu et enrichir l'écriture de cet épisode, qu'effectivement, les Algériens vont peut-être se sentir dans un contexte favorable et peut-être davantage écouté, entendu, et qu'il va y avoir effectivement le souhait de témoigner. Et donc l'émergence d'une mémoire algérienne, de l'immigration algérienne, je précise, parce que les porteurs de la mémoire algérienne en métropole, finalement à cette époque-là, c'était auparavant, on va dire, c'était évidemment les pieds noirs, les harkis, les appelés du contingent, mais l'immigration algérienne n'avait jamais auparavant témoigné de cette époque compliquée et complexe, et c'est que depuis peu qu'elle émerge. Et c'est un événement intéressant dans l'historiographie de l'immigration algérienne. Et d'ailleurs, on en a bénéficié nous-mêmes, puisqu'on a eu des témoins qui ont accepté de raconter leurs souvenirs de cette époque. Je pense que ça aurait été très difficile, il y a quelques années, de parvenir à les convaincre de témoigner. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui est en train de se produire en ce moment. Alors, pour faire vite, on arrive donc à la fin de cette exposition, et on a souhaité terminer, puisque l'exposition s'arrête le 5 juillet 62, date de l'indépendance, avec ces photos des festivités de l'indépendance, hein, à Paris notamment. Et effectivement, ce qu'on voit dans ces photos, c'est la joie. C'est aussi la fierté d'être arrivé au terme d'un combat et d'être parvenu effectivement à l'indépendance de l'Algérie. Mais c'est aussi une joie parce qu'il y a aussi beaucoup d'espoir pour la suite. Beaucoup d'Algériens espèrent retourner en Algérie. Hélas, la vie va faire que soit pour certains qui ont déjà des enfants scolarisés, qui ont déjà leur vie ici, le retour va être compliqué. Et puis pour beaucoup qui tentent l'aventure du retour, beaucoup ne vont pas trouver leur place et vont revenir. Donc c'est un sentiment d'échec terrible pour beaucoup, hein, de cette génération. Mais voilà, on est dans un processus d'immigration qui ne va pas cesser avec l'indépendance, puisque 300 000 Algériens, en 1965, il y a plus de 600 000 immigrés algériens en métropole. Donc effectivement, l'immigration algérienne ne va pas cesser. Et étant donné les liens particuliers entre la France et l'Algérie, qui sont au fond l'histoire d'un mariage forcé et d'un divorce contraint, on est dans une histoire passionnelle, et l'immigration algérienne, effectivement, ne va pas cesser de croître. Mais c'est un autre sujet, ça. C'est une autre exposition. Voilà. On sort par là ? Ou est-ce que vous voulez ? Oui, c'est ouvert ? Allez-y, je vous en prie.
Thank you. خسارة هجروا منك ناس اشتارة قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعبة وغدارة قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعبة وغدارة يا فرحي على أولاد الحمري أولاد المدينة وسيد الهواري عديت معاهم صغري ليهم فني طول عمري عديت معاهم صغري ليهم فني طول عمري عمري لا ننسى بلادي أرضي وأرض جدادي وهران دوح شبابي وهران تنسي لعذابي نحلف لك ما يطولش غيابي ونعود بين أهلي وحبابي والله ما يطولش غيابي ونعود بين أهلي وحبابي رحت خسارة هجروا منك ناس اشتارة قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعبة وغدارة قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعبة وغدارة عمري لا ننسى بلادي أرضي وأرض جدادي وهران دوح شبابي وهران تنسي لي عذابي نحلف لك ما يطولش غيابي ونعود بين أهلي وحبابي والله ما يطولش غيابي ونعود بين أهلي وحبابي
Vous êtes toujours dans les oreilles loin du front sur fréquence Paris Pluriel 106.3. Et on vient de terminer cette visite de l'exposition « Vie d'exil des Algériens en France pendant la guerre d'Algérie 1954-1962 ». Et tout de suite à l'instant, on entendait Ahmed Wahbi avec la chanson, la fameuse chanson « Wahran Wahran » où il nous parle évidemment de sa ville d'Oran. Donc l'exposition « Vie d'exil » est visible jusqu'au 19 mai à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, au Palais de la Porte Dorée. Ça se trouve au 293 avenue Doménil, très exactement, dans le 12e arrondissement de Paris. On remercie grandement Ediaj Yedlaschaouch, qui est chef de projet donc, de l'exposition, qui a accepté notre micro, notre présence, et qui aussi nous a communiqué les vidéos des témoignages d'Algériens qui étaient recueillis justement spécialement pour l'exposition. Des vidéos dont on a tiré des extraits sonores et justement on a entendu par ordre d'apparition Mohamed Sefir, Shérif Nemish, Mohamed Boukateb, donc des travailleurs algériens, les souvenirs d'enfance d'Abdelkader Zenaf, Sherazade la danseuse et puis Saad Absi, responsable du FLN. Au niveau musical, les musiques qu'on vous a passées, donc La Genouarda, Ahmed Wahbi et Slimane Azem sont extraites de deux compilations. Alors Slimane Azem, vous trouverez ça sur la compilation Algérie, musique rebelle, 1930-1962, l'album du cinquantenaire de l'indépendance qui a été concocté par l'association Sortir du colonialisme. Vous pouvez le commander auprès de l'association. Et puis les deux autres, donc La Genouarda et Ahmed Wahbi, c'est sur la compilation Hnal Ghorba, c'est-à-dire Nous sommes l'exil, pareil, 1937-1970, maître de la chanson maghrébine en France. C'est trois CD concoctés aussi par une autre association, mais cette fois-ci l'association Générique. Voilà, on peut retrouver tout ça en allant sur le site de Générique pour trouver cette compile Nous sommes l'exil.